Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Felice, que je te présente. Gennaro Savastano, lui c'est Felice. À toi, Jenny.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Tu le descends.
Mais comment je le descends?
Allez, descends-le.
Lâche-moi,
ta gueule, toi. Bah, vas-y. Bah, quoi? C'est trop facile, c'est ça? C'est trop facile.
Casse-toi,
vas-y, cours.
Non.
Bute-le. Dépêche.
J'ai rien fait.
Vas-y, Jenny. Vas-y.
Attends.
Achève-le, allez, achève-le.
Enculé.
Oh, tu le fais. Bah, vas-y, allez.
Enculé. J'ai rien fait. Merde.
Pour causer mafia, aujourd'hui je suis accompagné de mon, comment dire, de mon Don Corleone à moi. Eh oui, mon petit Don Corleone préféré, le Don Corleone de Compiègne. Je veux bien sûr parler de John Ferré, dit l'homme mystère. Un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens.
Salut John.
Ma che cosa dice? Bonjour Jérôme.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bah, vous voyez, on n'a pas pu s'empêcher de faire dans le cliché dès l'intro de l'émission, alors que justement, ce qu'on veut dans cette émission, c'est pas tomber dans les clichés sur la mafia, parce qu'on va vous parler effectivement aujourd'hui de la mafia. De sa représentation au cinéma à travers ses différentes illustrations dans la collection Make My Day par exemple, qui est une collection qui a souvent mis des films qui sont qui tournent plus ou moins autour de la mafia. Je vais citer l'excellent et méconnu Au nom de la loi de Pietro Germi, qui est un film de 49 qui, selon d'ailleurs Jean-Baptiste Auret, est le premier film à aborder la mafia au cinéma, le premier film italien à aborder la mafia au cinéma. On en reparlera, hein. La mafia fait la loi, de Damiano Damiani. Le conseiller de Alberto De Martino, le témoin à battre d'Enzo G. Castellari. On parlera un peu aussi de Napoli Spara, enfin rapidement, de Mario Caiano, puisque c'est pas vraiment un film là sur la mafia par contre, mais qui est plutôt un film sur la criminalité à Naples. Et puis on va revenir aussi sur la mafia vue à travers le prisme du cinéma d'auteur. Avec, on va essayer d'en parler si on a assez de temps. Hein. Il y a par exemple Le Traître, l'extraordinaire film de Marco Bellocchio. Et puis, moi je voulais vous parler d'un film surtout qui s'appelle A Chiara, qui est un film de Jonas Carpignano, qui est disponible chez Blackout. D'ailleurs, à ce sujet, je remercie Sandrine Hiver pour son aide hein, sur cette émission. E cosa nu cagna ne nui a lucam Sulu quanne vai c'è stan tu can O stato da poi lego ballo in gaba Tu scine e tu sballo con macchina un zaba Per chi vuoi sapere frate rinunciato Tieni giorno con me sordi in da sacco contato. Et on va débuter avec quelques ouvrages de référence que je vais vous conseiller. Alors on va essayer de faire vite. Il y aura Le Retour du Prince de Saverio Lodato et Roberto Scarpinato, qui est paru aux éditions de la Contralée, qui est certainement le livre le plus complet et le plus intéressant qui ait jamais été publié sur la mafia. Là, je remercie Dominique Manotti qui m'avait fait découvrir cet ouvrage. Hein. Cosa Nostra, le juge et les hommes d'honneur. Alors, les hommes d'honneur, c'est entre guillemets. Ça s'est paru chez édition numéro 1 Austral. Histoire de la mafia, des origines à nos jours, de Salvatore Lupo. Ça s'est paru dans la collection Champs Histoire, chez Flammarion. Et puis surtout, bien sûr, on va aborder le phénomène, hein, Roberto Saviano, son livre Gomorra. Gomorra qui a donné lieu à un film, qui a donné lieu à une série télé, et qui, comment dire, a aussi condamné un peu Roberto Saviano à une vie infernale, en fait, hein, une vie terrible, hein, puisque Roberto Saviano, depuis que le livre Gomorra est sorti, vit avec des gardes du corps, parce qu'il y a sa tête est mise à prix par la mafia. Donc pour lui, c'est un peu, ça a signé quelque part ce livre, son arrêt de mort. Il est toujours de ce monde, heureusement, Roberto Saviano. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça lui a, du coup, il craint plus rien et il continue de travailler sur le sujet et de ressortir des livres, des ouvrages qui sont, qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Alors, avant de développer sur Gomorra, vous parlez un peu d'autres ouvrages, si vous voulez faire connaissance avec la mafia. Alors, tout d'abord, un ouvrage, je n'ai pas cité les auteurs tout à l'heure, de Giovanni Falcone et de Marcello Padovani, Cosa Nostra, le juge et les hommes d'honneur, hein, donc paru aux éditions numéro 1, éditeur, c'est Austral. C'est simple, hein, c'est le juge Falcone qui était une figure maîtresse, hein, de la lutte contre la mafia, qui fait le récit de sa guerre et puis qui dépeint en même temps l'organisation telle qu'elle est réellement, épurée de sa légende. Il est au plus près de la vérité. Il explique ce qu'est la Cosa Nostra, mais vraiment de l'intérieur. Parce que c'est lui qui est à l'origine, qui a travaillé énormément sur la mafia, qui a fait vaciller la mafia. Hein. Et il s'est fait aider de Marcello Padovani, qui rapporte les dires de Giovanni Falcone, du juge qui a mené le fameux maxi-procès où plus de 400 mafieux ont été écoutés, entendus, condamnés. Ce qu'on voit dans le film de Marco Bellocchio, Le Traître, hein, on le voit, ce maxi-procès. Les images existent de ce maxi-procès, c'est très intéressant. Donc évidemment, c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'un homme qui a donné sa vie donc, hein, pour justement... dans sa lutte contre la mafia. Alors, je commence par celui-là parce que c'est un petit bouquin, il fait moins de 200 pages et surtout, il est plus facile d'accès que les autres. Parce que maintenant, je vais passer un autre bouquin qui est écrit par Roberto Scarpinato et Saverio Lodato, qui est paru à la Contralée, qui s'appelle « Le retour du prince, pouvoir et criminalité ». Et en fait, c'est pas vraiment un livre sur la mafia en elle-même. C'est en fait une histoire du pouvoir auquel le juge Roberto Scarpinato donc est confronté systématiquement dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est un peu le même principe que le précédent ouvrage, c'est-à-dire que c'est Saverio Lodato qui mène l'entretien et qui, du coup, nous offre une lecture de l'histoire contemporaine de l'Italie et donc, évidemment, de la mafia, puisque Scarpinato, c'est la mémoire historique de la justice anti-mafia, puisque c'est le type qu'ils n'ont pas réussi à tuer. Hein. Voilà, il vit sous escorte. Et c'est un ouvrage qui commence à être très, très, très pointu. Ça commence déjà... je vous conseille de commencer par celui qui était précédemment cité et ensuite d'attaquer sur celui-là. Et ensuite, peut-être un petit conseil de lecture. Le livre est divisé en deux parties. La première partie est très, très philosophique. vous n'apprendrez pas forcément énormément de choses sur la mafia, mais plutôt sur la philosophie de vie de Scarpinato, sa manière de voir le monde, sa manière de voir son ennemi. Hein. Et ensuite, vous rentrez vraiment dans la... Comment dire ce qui est vraiment la... De la science politique, j'ai envie de dire quoi. Et ça devient un livre presque sociologique sur la mafia dans sa deuxième partie. Donc à la limite, vous pouvez peut-être attaquer par la deuxième partie parce que la première partie série est un peu ardue à lire. Hein. Mais c'est un témoignage absolument captivant et absolument nécessaire. C'est des livres qui ont été faits avant, avant Gomorra. Hein. Celui-là, c'est de 2012. Celui dont je vous ai parlé avant était de 91. Et puis, il y a un livre qui est sorti en poche dans la collection Champs Histoire, Histoire de la mafia des origines à nos jours, de Salvatore Lupo, qui est traduit par Jean-Claude Zancarini, donc, qui a dû avoir du boulot. Hein. Alors, c'est un pavé, ça fait 400 pages, mais c'est écrit tout petit. Hein, c'est monstrueux. Là, vous avez tout de l'histoire de la mafia de A à Z. Et surtout, c'est un travail d'historien. Là, c'est un vrai travail d'historien. Mais c'est un peu pareil que le précédent bouquin. Il faut avoir une connaissance quand même de l'histoire de l'Italie et des forces politiques en place. Alors moi, ça me passionne, mais bon, c'est pas forcément évident. D'autant plus que la mafia n'est pas du tout ce que l'on décrit dans les trois quarts des films quand on parle de la mafia. D'ailleurs, Salvatore Lupo, à un moment, il dit quelque chose de, pour moi, absolument nécessaire à savoir sur la mafia. Au-dessus du sommet de l'organisation affirmée donc Falcone, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, dont tout le monde connaît les images hein, de la mort de Giovanni Falcone, des images très très spectaculaires. Au-dessus du sommet de l'organisation, donc, il n'existe aucun troisième niveau, de quelque sorte que ce soit, capable d'influencer ou de déterminer les objectifs de Cosa Nostra. Et comme il savait que le monde de la mafia ne comportait ni montreurs de marionnettes, ni supercomité qui contrôlerait les leaders de la coupole, sans même qu'ils le sachent, il estimait que l'idée du grand vieux qui, du haut de la sphère politique, tirerait les ficelles de mafia, était un signe de grande sottise. Cette thèse a ensuite été confirmée, non seulement par les tribunaux, mais par la réaction meurtrière de l'organisation mafieuse. Donc, ce que nous explique Salvatore Lupo, je vous ai lu une page sur 400, hein, parce que le bouquin est énorme, hein, c'est que faisons fi un peu des idées, d'ailleurs souvent véhiculées par le cinéma sur la mafia, il n'y aurait pas une superpuissance qui maîtriserait un grand complot orchestré par la mafia. Et non, la mafia, c'est une criminalité à grande échelle, tentaculaire, qui englobe plein de pans de la société, du ramassage des ordures à certains pans de l'agriculture, à l'isolation des maisons. Enfin voilà, la mafia, c'est un monde économique parallèle. C'est pas que l'économie de la drogue, voilà. Et c'est une forme de banditisme absolument unique, hein, et qui est, très souvent caricaturé par le cinéma, où on voit ce fameux parrain qui est là et qui contrôle tout et qui ne risque rien, qui est copain avec les politiques, qui est copain. Bon, en vrai, ça n'existe pas. Il suffit de voir Toto Riina, hein, pour se rendre compte. Toto Riina, qui était le grand ponte de la mafia, a arrêté ce petit bonhomme qui nous l'a joué paysan quand il est passé au tribunal, qui était un type complètement un monstrueux, qui était un chef de mafia terrible, qui faisait assassiner, s'il le fallait, femme, enfant, oncle, tante, voilà, qui était un monstre, un vrai monstre, et qui dirigeait son commerce d'une main de fer, mais qui a essayé de nous la jouer petit paysan quand il a été jugé. Bon, ça n'a pas bien fonctionné, mais on est loin du personnage incarné par Marlon Brando dans Le Parrain. Voilà, il faut le savoir. Vous écoutez Culture Prohibée. Il y a un homme qui a travaillé là-dessus, qui est né en 79 à Naples, et qui a livré, pour la génération, la dernière génération, la plus récente, un livre qui a fait date, un livre qui est sorti en 2006, qui s'appelle Gomorra, qui continue de faire date, puisqu'il continue d'être adapté, d'être étudié, voilà. Cet homme, c'est Roberto Saviano, né en 79, qui, avec ce livre, nous fait une description méticuleuse et critique du système des clans mafieux. Immense succès de l'ouvrage, qui pourtant n'est pas simple à lire non plus. Hein. C'est une sorte de livre choral où il ne faut vraiment pas se perdre dans les dédales de l'intrigue. Livre passionnant. Et puis tout est tellement vrai dans ce qu'il raconte dans ce livre que du coup, la mafia lui est tombée sur le rable. Sa tête est mise à prix. Et c'est un livre documentaire, évidemment. Hein. Et il s'en prend beaucoup à la Camorra, donc il est victime de menaces de mort, confirmées par des déclarations de camorristes collaborant avec la justice et des informations révélant le projet du clan Casaleggi de l'assassiner. Donc depuis, il vit sous protection policière et en 2021, il relate d'ailleurs dans la bande dessinée « Je suis toujours vivant » sa vie de paria liée aux menaces dont il est l'objet. C'est complètement incroyable. Alors, peut-être en plus qu'en faisant ça, la mafia a déclenché peut-être encore un peu plus le succès de ce livre qui du coup a été traduit dans 42 pays et s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, ce qui est quand même très très étonnant pour un livre comme celui-ci, qui est un livre assez ardu malgré tout, hein, qui n'est pas un livre dont la lecture est facile, quoi. Et c'est pas un livre aimable, j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Donc, il ne vous prend pas par la main. C'est un livre où il faut batailler avec le bouquin, quoi. Voilà. Et c'est passionnant. Hein. Et bon, il va y avoir, du coup, on le sait, on l'a dit, hein, à partir de ça, Roberto Saviano va avoir un film de Matteo Garrone. Alors qui, pour moi, le film de Matteo Garrone est impressionnant, très sec, très dur. Je pense à ces scènes où on voit les enfants qu'on entraîne à tirer dessus avec un gilet pare-balles, machin, tout ça et tout. Bon, bref, qui nous épargne rien, mais qui a avec Tony Servillo, qui est un acteur que j'adore, mais qui a le tort d'être presque trop fidèle au livre. C'est-à-dire que c'est comme une succession de scénettes comme ça qui s'enchaînent avec le côté choral. Pour moi, en fait, la meilleure adaptation de l'univers de Saviano, c'est la série télé Gomorra, plus que le film, hein, qui se passe à Naples. La série, elle est créée par Saviano, il travaille sur l'adaptation de son livre. Et donc, ça se consacre à la mafia napolitaine, donc celle qui s'appelle la Camorra. Et c'est diffusé en France depuis 2015. Et ça vient de se terminer, il n'y a pas très longtemps, là, par la dernière saison. Et entre deux, ça a même donné lieu à un film qui s'appelle L'Immortel, pour faire la jonction entre les deux dernières saisons. Et l'histoire est simple, hein, c'est celle d'un clan de la Camorra. L'un qui est dirigé par Don Pietro Savastano, acteur incroyable, parce qu'il a la tronche, il a une tronche de Monsieur Passepartout, de vieux grand-père, et en fait, il est littéralement flippant. Il y a une scène d'évasion où il sort du camion là, qui est saisissante, où même habillé en tolard et tout, il est le king, il règne sur son royaume. Ah, c'est impressionnant. Et il perd jamais, en fait, cette sorte de classe, malgré une vie de merde. Parce qu'après, comme il est évadé, il est traqué, il vit dans une cage. C'est la réalité de la mafia, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des cages dégueulasses, ils voient personne, ils bouffent mal, ils profitent pas de leur pognon. Parce que c'est ça, là, ces grands dirigeants. Totorina vivait cloîtré à la campagne, enfermé chez lui, il sortait pas, voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis très longtemps à l'arrêter, ils sortaient jamais. Ils ont été obligés d'attendre qu'il sorte. Ils ne pouvaient pas rentrer chez lui. Donc, tout le monde était armé jusqu'aux dents là-dedans, donc ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, c'est dément. Et donc, Il y a un autre clan hein, dans la ville qui est dirigé par Don Salvatore Conte. Voilà. Et il s'oppose pour avoir la main, évidemment, sur les différents trafics de la ville. Et Savastano, il est vieux. Et il doit passer normalement la main à son fils Gennaro Savastano, qui était d'ailleurs la révélation d'un acteur, hein, Salvatore Esposito. À la base, on voit cet acteur, on dit d'ailleurs, il est, je crois, dans Taxi 5. On se dit, voilà, une sorte de gros patapouf. Hein, c'est un gros, il est costaud, hein, mais il est massif, mais il a un côté Bud Spencer, quoi. Il a un côté bon gars, un peu bené, un peu idiot. Sauf que le personnage va prendre une importance au fur et à mesure de la série. Et puis, alors ça, c'est le fils de Savastano. Il n'aime pas son fils. Il trouve que c'est un peu un crétin. Il trouve que c'est un peu, voilà, qui profite de la vie. Voilà. En fait, il a un fils adoptif, Savastano, qui s'appelle Ciro Di Marzio. Ciro Di Marzio, qui est interprété par Marco D'Amore, c'est le rôle de sa vie, hein, Marco D'Amore. Et c'est la série qui va l'amener vers la mise en scène. D'ailleurs, c'est lui qui réalise L'Immortel. Et il réalise plein d'épisodes dans la série. Série qui, au départ, est réalisée par Stefano Solima, qui n'est pas n'importe qui, fils de Sergio Solima, et qui va poser son empreinte sur la série, son style de mise en scène qu'on a pu admirer au cinéma dans Sicario 2, dans All Cops Are Bastards, voilà. 000, qui est aussi notre adaptation de Savastano, qui est là plus sur le trafic de drogue, oui. Voilà, où on suit le trafic de drogue, série très clinique d'ailleurs, hein, très très. Moi, je préfère Gomorra personnellement, où on s'attache plus aux personnages, voilà. Bon, en même temps, c'est une mini-série, ça, c'est une série sur 5 saisons, donc c'est différent. Et donc, il va y avoir une guerre entre le fils légitime. Le fils spirituel, parce que Ciro Di Marzio, lui, il a toute Savastano, il fait pas de sentiments. S'il faut tuer un gamin, il tue un gamin. Il est terrible. Et en même temps, l'acteur est génial, parce qu'il est hyper charismatique. Donc évidemment, c'est un personnage qu'on adore, mais en même temps, c'est une ordure, tout simplement. Tandis que Gennaro, lui, il est plus torturé, en fait. Son attitude de garçon désinvolte, en fait, elle cache autre chose. Elle cache une profonde dépression. Elle cache aussi un enfant qui a vécu dans un univers qui l'a obligé à grandir et qui, en fait, il est fou. En fait, quand il pète des câbles, par contre, il est bien plus dangereux que Ciro Di Marzio. Le problème, c'est que Ciro Di Marzio, lui, il est très réfléchi. Il sait tout à fait ce qu'il fait. Ciro Di Marzio, c'est l'immortel dans la série. On l'appelle l'immortel parce qu'à chaque fois on croit qu'il est mort et il revient toujours. Voilà. Et après, je vais passer la parole à John pour qu'il nous parle de cette série que moi je trouve sensationnelle. En fait, il se passe un truc. Quand Stefano Solima fait la série, les deux se tirent la bourre, hein, les deux personnages, là, Ciro Di Marzio et Gennaro Savastano. Et à la fin de la saison, il y a une fusillade de la première saison. Et normalement, ce qui est prévu dans le scénario, c'est que Gennaro meurt et que Ciro Di Marzio devienne le seul à pouvoir hériter de cet empire mafieux. Bon. Et je crois l'anecdote, c'est celle-là, mais je crois que les acteurs sont allés trouver, et en particulier Marco D'Amore, sont allés trouver Stefano Solima, et puis il est producteur, ça, puis ils leur ont dit « Non, cet affrontement entre les deux, c'est ça le sel de la série ». Il faut que nos deux personnages restent. Il ne faut pas qu'ils meurent. Et à partir de là, c'est une tragédie shakespearienne dans le milieu mafieux, dans la Camorra napolitaine, qui va se dérouler sur plusieurs saisons, où rien ne nous sera épargné de toutes les activités de la mafia, y compris la gestion d'un aéroport. C'est ça qui est génial, d'ailleurs, dans cette série. C'est que ce n'est pas la mafia caricaturale. C'est la vraie mafia. Et aussi, on voit le rôle social de la mafia, comment la mafia donne à bouffer à tout un quartier, donc il n'y a personne pour les dénoncer, comment c'est une vraie économie organisée dans Naples. Il y avait eu d'ailleurs beaucoup de... beaucoup de polémiques, parce qu'ils avaient dû dealer avec la mafia pour pouvoir filmer réellement ce qui se passait. Voilà. Donc ça a créé des polémiques, mais ça donne, ça apporte du vérisme à cette série qui est passionnante, ne serait-ce que dans son approche, moi je trouve, qui est anti-romanesque, anti-romantique, qui est hyper réaliste. Et moi, c'est ça que j'adore, parce qu'on voit tous ces petits mafieux ridicules, habillés n'importe comment, l'autre qui a une panthère chez lui, machin. Ils sont ridicules, ils sont nuls, leurs décors sont rococo. Ils se comportent comme des parvenus, et certains sont, pas tous, hein, certains sont vraiment bêtes et tout. Puis alors, c'est marrant, parce qu'au fur et à mesure de la série, en plus, il y a une évolution des personnages. Et à un moment, il y a même des mafieux qui sont des mafieux un peu hipsters dans leur look. Qui apparaissent. Enfin bon, bref, moi, c'est une série, mon cher John, qui, pour moi, est une des meilleures séries policières. D'ailleurs, d'où la justice est pas mal absente. On a parfois l'impression qu'elle n'existe pas. On la voit un peu, quand même, mais on a parfois l'impression qu'eux vivent dans un monde et que la police est un autre monde. Mais qu'eux font ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, c'est une série impressionnante. A due metri su chilometri indaga per chi resiste. In da un bicchiere umore, in dall'occhio tengo cielo, sto da cor. I pensi sulla di me, a te che mi aspetti fa. Viene in faccia un capo mezza bella, brucia sotto il sole. Dammi non ancora, ma voglio ascoltare. Che cosa muore Daria voglia Daria su viva voglia respira che Daria Daria. Vous écoutez Culture Prohibée spécial mafia. Ora l'aria, corre l'aria, vien di mare. 300 rare, coppo lungo mare. Care amare, si indispara, mi si grare. Sui creature che pazzina a carnevale. Si ho giorno nuovo, che da colore a sturi una.
C'est une vraie étude sur l'ensemble des saisons de comment marche tout ça. Un peu quand même d'ailleurs comme pour Surécoute. Hein. Surécoute nous démontre tout un quartier, nous démontre des méthodes policières, nous démontre des méthodes de quartier, comment ça marche. Eh bien là, on plonge réellement dans ce qui est la mafia de nos jours. C'est-à-dire que exit les gros poussifs de cette mafia. La mafia est en col blanc, la mafia se porte bien, la mafia achète énormément d'immobilier. Il y a toujours ces petites frappes ou quoi que ce soit, mais ce qui est incroyable, c'est que la série, déjà d'une, est vraiment très très bien écrite, parce que chaque personnage a une vraie destinée, et vraiment très très bien dessinée, notamment aussi la femme du boss qui va prendre aussi un rôle de plus en plus important. Le boss qui a, lui, une destinée incroyable, parce qu'il va aller jusqu'au bout, et quand je dis jusqu'au bout, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, allez-y sur la série, qu'il va aller vraiment jusqu'au bout de son idée. Évidemment, on en a parlé de Gennaro, et Gennaro va avoir une bascule dans son histoire, c'est-à-dire que c'est un jeune au départ qui est le fils du boss, qui en a un peu rien à faire, l'insouciance de l'adolescence, les copains, tout se passe bien, et à un moment, il va être obligé dans son récit, dans sa vie, de faire face à un choix assez incroyable. Il va revenir d'une expédition, mais il va revenir transformé. C'est-à-dire que pour moi, par contre, c'est réellement le vrai successeur de son père, si j'ose dire, parce que il n'aura de cesse que de perdurer dans la famille, de faire voir vraiment que c'est lui qui a fondé tout ça. Il va même jusqu'à aller taper un peu dans le monde politique. Enfin, je veux dire, on voit vraiment que cette mafia étend vraiment son pouvoir dans toutes les strates de la société. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment romanesque, c'est shakespearien. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce sont des vraies tragédies, mais avec aussi des fois des moments assez incroyables. Il y a vraiment tout. On voit le Naples du centre-ville, on voit le Naples des quartiers, on voit les premières fois de chacun. C'est vraiment, c'est un peu comme si Michael Mann s'intéressait à la mafia, quoi. Et puis en plus, alors c'est tourné d'une façon, caméra à l'épaule, pas tout le temps, mais quand même. Il y a une musique qui est assez incroyable, qui englobe pas mal de choses. Et c'est une plongée. Une plongée dans cette mafia-là pour qui veut vraiment voir à quoi ressemble la mafia actuellement.
Ouais, c'est la saison dont tu as parlé quand il va diriger un aéroport. C'est la saison que je préfère, en fait. Non, je les aime toutes, mais j'aime beaucoup cette saison-là. D'abord parce qu'il développe un personnage féminin superbe, qui est celui de Patrizia, qui est un incroyable personnage de femme forte qui se sort, qui est interprétée par Christiana Del Anna, qui est au départ celle qui va aller amener, en fait c'est la seule qui sait où est Sabastian ou le père, parce qu'il est en planque, et qui va être celle qui va lui amener la bouffe, le journal, tout ça, voilà. Et donc elle va petit à petit prendre une place importante dans la mafia, parce qu'il y a des femmes mafieuses, hein, il y en a quelques-unes, il y a plus d'hommes, mais il y a des femmes mafieuses, et ça ne nous est pas épargné. Et plus la série avance, plus les personnages féminins, en fait, prennent de l'ampleur, et par exemple, dans la dernière saison, la femme de Gennaro Savastano a un rôle très important. Puis il y a aussi un autre personnage de femme qui a un rôle très important, puisqu'elle est, comment dire, elle est aussi à l'origine d'une trahison très importante. Et il y a une vraie, une vraie place qui est accordée aux femmes. C'est pas qu'un univers d'hommes avec les poncifs liés à la mafia et tout. Alors moi, je disais, au contraire, John, pas romanesque. Moi, je trouve que c'est anti-romanesque. C'est tragique, c'est de la tragédie, mais c'est pas romanesque parce que les destinées de ces gens sont absolument pas enviables. Enfin, on n'en veut pas de leur destinée.
Ah non.
Voilà, je veux dire, ils sont pas magnifiés. Oui, ils ont des vies de merde quand même. Enfin, voilà.
C'est clair que c'est pas enviable. Ça, oui, peut-être que je me suis trompé sur le thème romanesque, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi Cirio quand même qui va faire un geste de non-retour par rapport justement à quelqu'un qui lui est très proche. Où là, c'est-à-dire que on ose y croire quand on sent que ça va arriver, et ça arrive. C'est-à-dire que Cirio va passer toutes les étapes les plus incroyables, mais je ne dis pas ça dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il va aller jusqu'au bout d'une certaine chose que moi, j'ai toujours pas réussi à comprendre. Enfin, je ne sais pas comment on peut vivre après avec ça. J'ai bien conscience que c'est une fiction, que ce sont des personnages qui sont écrits. Mais ce que je veux dire, Cirio va aller très loin dans sa destinée.
Ouais, mais dans la suite de la série, c'est un mort-vivant, Cirio, en fait.
Oui.
C'est l'immortel, donc forcément, il n'y a rien qui le tue. Mais c'est un mort-vivant, c'est-à-dire qu'il franchit un point de non-retour lorsqu'il prend cette décision, qui est la décision à prendre, qui prouve que c'est lui le chef mafieux. Parce que Gennaro, il est incapable de prendre une décision comme ça. C'est-à-dire qu'il ne ferait jamais ça à celle qu'il aime. C'est impossible.
Alors, il le ferait jamais, mais, voilà. Mais il a déjà un plan.
Oui, mais il ne le ferait pas, t'es d'accord ?
On est bien d'accord.
Il est différent. Bon, il n'hésite pas à faire flinguer des personnages très importants. Je veux dire, à la fin de la saison 4, moi j'étais scotché par la fin de la saison 4, voilà. Mais ils sont quand même très différents tous les deux. Voilà, ce sont des... je voulais continuer, on l'a abordé rapidement, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler de tout ce dont on avait prévu de parler. Enfin, on vous conseille donc grandement Gomorrah, qui est disponible en Blu-ray, DVD, chez Studio Canal. Bon, moi, je voulais parler de... Pour rester un peu dans une vision un peu autorisante, on avait parlé du Traître, de Marco Bellocchio, qui est un chef-d'œuvre porté par l'interprétation de Pier Francesco Favino, qui est extraordinaire, qui raconte l'histoire comment un membre de la Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, va changer l'histoire de la mafia dans son pays, puisqu'il va aller rencontrer le juge Falcone, et il va trahir le serment qu'il a fait à Cosa Nostra, et il va donner des noms. Ça va déboucher sur ce maxi-procès où 400 mafieux vont être jugés. C'est donc une histoire vraie. C'est un film sublime. C'est un chef-d'œuvre. Toute la critique était absolument scandalisée qu'il soit reparti sans aucun prix quand il a été présenté à Cannes en 2019. J'ai revu le film, qui est fait 2h30, hein, c'est un truc gigantesque, c'est une fresque, c'est de l'ampleur des grands films à la Coppola, tout ça, des années 70, tout ça, et c'est grandiose. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ces années-là. Bon, bref. En tout cas, Le film a été assez sous-estimé, pas par la critique, hein, mais en tout cas par le jury qui était à Cannes.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Chiara de Jonas Carpignano vient de sortir chez Blackout. Alors Jonas Carpignano, c'est un Italien qui est né à New York en 84, encore un petit jeune, donc hein, voilà, et qui signe là un film. Il a signé plusieurs films, hein, mais celui-là vient conclure une trilogie qui est une trilogie sur un peu des destins de jeunes, enfin de adolescents ou plus jeunes, en lien plus ou moins avec l'Italie. Voilà, c'est un peu une sorte de trilogie sur l'enfance-adolescence. Le premier film de cette trilogie s'appelait Méditerranéa, date de 2015, et ça racontait l'histoire de deux migrants burkinabés qui voulaient rejoindre l'Europe, d'où le titre Méditerranéa, parce qu'il faut en passer par la Méditerranée, évidemment. Et puis après, il y avait Acambra en 2017, qui était l'histoire d'un très jeune Rome qui vivait en Italie. Et puis il y a ce film-là qui vient de sortir, qui est porté par une actrice extraordinaire qui s'appelle Suomi Rotolo. D'ailleurs, toute sa famille joue dans le film. Ça donne une impression de véracité au film. C'est vraiment sa famille qui joue le rôle de sa famille. Voilà. Et donc, elle est famille douée dans le jeu. Ce sont tous des bons acteurs. Hein, voilà. Et elle a 16 ans. Elle vit dans une petite ville de Calabre avec ses copines, tout ça. Tout va pour le mieux pour elle. Hein. Et puis, son père Claudio est un père aimant, un père gentil, tout ça. Et puis, un jour, son père disparaît sans laisser de traces. Mais, du coup, elle décide d'enquêter pour le retrouver. Parce qu'elle découvre très vite que son père, avec sa tronche d'ouvrier du bâtiment sympa, est en fait un mafieux. Est en fait un mafieux et il est planqué. Il est planqué dans une planque dégueulasse au fin fond des champs, voilà, comme à chaque fois qu'on planque un mafieux, là on est censé pas le retrouver, on le fout quasiment dans une grotte. Ce qu'on voit aussi dans la série Triple Zéro, hein, où le grand chef mafieux vit dans une cabane dans les bois, manière très rustique quand même, hein, voilà, très spartiate. Et ce film, qui est vraiment porté par cette actrice, hein, est très vériste, c'est-à-dire qu'on est très c'est très naturaliste. La caméra est portée, Suomi Rotolo, elle est filmée comme un peu comme une boxeuse qui avance comme ça, les épaules en avant, très déterminée, qui avance sur le ring, le ring de la vie. La métaphore est un peu facile, mais c'est ça, puisqu'elle est, elle est à une période. Ce film, c'est l'histoire d'un choix en fait, c'est-à-dire qu'elle est soit elle décide de basculer dans le banditisme, dans la délinquance, d'accepter tout cela et de s'y conformer, soit elle décide de changer de vie. Parce qu'il y a un programme qui existe en Italie où on peut, en fait, prendre les enfants de mafieux et leur changer les noms, tout ça, puis les mettre dans une autre famille pour écarter les enfants de la mafia. Parce qu'il y a tout un côté, dans la mafia, il y a tout un côté... héritage familial, et souvent on reprend le flambeau, quoi. Voilà, c'est des clans, donc souvent le flambeau est repris, ce qu'on disait à l'instant sur la série Gomorra avec les Savastano. Voilà, donc c'est un film qui devient un film sur le passage à l'âge adulte. D'ailleurs, le film s'ouvre par un anniversaire, se termine par un anniversaire, mais entre deux, il s'est passé beaucoup de choses pour Chiara, qui est donc à la croisée des chemins. C'est un film très touchant qui est porté vraiment par une... Alors, sans aucun pathos, hein, mais qui est porté par une actrice qui est la vraie révélation du film, en fait. Elle est très charismatique, elle est très crédible dans son rôle de... Parce que, bon, tu te dis, bon, une gamine de 16 ans, parce qu'elle a quasiment l'âge du rôle. Enfin, elle est jeune, l'actrice, elle doit avoir une vingtaine d'années. tu veux en imposer aux mafieux, c'est pas crédible. Mais si, elle en impose, en fait. Elle est crédible. Bon, elle doit tenir un peu ça de son père aussi. Dans... voilà. Mais... Et le film est aussi passionnant dans cet aspect-là, c'est-à-dire que, alors on est loin des films dont on parlait à l'instant ou de la série dont on parlait à l'instant, mais on est dans quelque chose qui aussi est au plus près de la vérité. Ce père aimant, avec ses enfants, qui veut leur offrir le meilleur, qui leur offre des beaux anniversaires, un peu comme ça, un peu rococo, mais voilà, il aime sincèrement ses enfants, il ne veut pas leur malheur. D'ailleurs, à un moment, elle finit par le retrouver. C'est à la fois touchant, et à la fois effrayant, parce qu'on comprend qu'il y a un déterminisme sociétal là-dedans. Parce que dès qu'elle le retrouve, lui, il repart sur un mauvais coup. Voilà. Donc, mais ça n'a aucun rapport avec elle. C'était planifié comme ça. Donc du coup, c'est là qu'on comprend que bon, pour cette fille, il va falloir qu'elle fasse un choix, qu'elle fasse le bon choix. Quoi. Voilà. Donc du coup, choix d'ailleurs qui se fait pendant une ellipse. C'est ça, j'aime beaucoup cette idée de... cette idée narrative qu'a le cinéaste. Enfin bref, je vous le conseille vivement, c'est un film un peu à part dans les films dont on a parlé aujourd'hui et dans les films dont on va parler maintenant, qui sont les films qui tournent autour de la mafia et qui sont quand même assez nombreux dans la collection Make My Day de l'ami Jean-Baptiste Torret, donc c'est Studio Canal, dont en particulier un film de 49 de Pietro Germi qui s'appelle Au nom de la loi, Il nome della legge, qui raconte l'histoire d'un jeune juge qui est envoyé dans une petite ville de Sicile, qui se heurte à un riche propriétaire terrien et au chef local de la mafia, qui est joué par Charles Vanel d'ailleurs, qui est extraordinaire. Et ce magistrat, c'est un type droit dans ses bottes, il est hyper honnête, et il essaye de bousculer les traditions parce que le film est tout sauf manichéen, et c'est ça qui fait sa force justement. C'est-à-dire qu'il débarque dans cette ville qui est dominée par la mafia. Mais est-ce que les gens souhaitent sortir du joug de cette domination? C'est là que ça devient complexe. Et tu racontes ce film passionnant, d'ailleurs, qui pour moi a été une claque. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un excellent film. Et ça a été une vraie découverte.
Oui, totalement, une vraie découverte, mais alors tant au niveau de la mise en scène qu'au niveau de la photographie, qui est quand même sacrément exceptionnelle. C'est un noir et blanc, hein, mais un noir et blanc avec comme ça une sorte de ville un peu qui tombe en ruine. On voit, pareil, il y a cette volonté de vraiment toucher au réel de la vie d'une ville comme ça en Sicile. Où, oui, c'est la Sicile. Donc il y a ça, et contrairement justement à la série Gomorra, c'est-à-dire qu'on là, on touche peut-être du doigt l'idée même de la naissance de la mafia, c'est-à-dire qu'à un moment, Charles Vanel, dans un face-à-face avec le juge dans le bistrot, dans le seul bistrot de la ville, lui explique attention, la mafia, c'est simplement parce que la police ne fait plus son travail, donc eux sont obligés de défendre le peuple, et le peuple accepte en retour peut-être de ne pas dénoncer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Charles Vanel a à peu près ce discours-là et il dit ça au juge. Et évidemment, le juge ne peut pas accepter ça, parce qu'à un moment, il lui dit, ben oui, mais moi, je suis la justice. Donc, il y a vraiment ce côté-là où on dit, ben voilà, la mafia, c'est qu'on règle nos histoires, notre linge sale en famille, et on n'a pas besoin de la police ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on le voit très bien là-dessus, hein, les gens ne disent rien ou quoi que ce soit. Alors, Charles Vanel, il y a un jour où il va falloir quand même se rendre compte que c'est un comédien qui a une filmographie assez incroyable. Et là encore, il a ce rôle comme ça de patriarche, de parrain, mais terrien, c'est-à-dire toujours avec ses bottes et son fusil, et qui tient la dragée haute en termes de réponse, parce qu'il a une sacrée répartie. Et il y a une scène exceptionnelle où on voit un mariage dans les terres un peu éloignées comme ça, et on entend toute cette scène-là est rythmée par une sorte de musique comme ça qui accompagne le mariage, et tout d'un coup le juge rentre. Alors justement, ça c'est pas mal fait, parce que la musique s'arrête, le juge rentre, on comprend bien qu'on rentre dans des terres qui sont peut-être un peu hostiles à tout ce qui n'est pas connu du coin. La musique reprend, donc le montage, comme la mise en scène, est vraiment calqué sur cette musique-là. Et à un moment, on entend deux grosses détonations, et avec un Charles Vanel après qui débarque avec un de ses sbires pour dire bah, on a fait une bonne chasse, tout en lâchant un lapin sur la table. Et on sait très bien, et ça c'est la force de la mise en scène, que le lapin n'est pas mort de la chasse, mais que c'est bien autre chose. Ce qui sera après directement dit dans le film. Et ça, ces moments-là, Et c'est pas le seul moment dans ce film-là. Il est rempli que de moments comme ça où on sait alterner le drame, on sait alterner la comédie. Il y a une relation avec la femme du bourgeois qui adore la musique, qui est exceptionnelle. Il y a vraiment quand même ça des. Enfin, si on a envie vraiment de voir un peu comment était traitée la mafia dans le cinéma italien des années 40, il y a vraiment ce film-là à voir. C'est vraiment une grande, grande découverte. Certes, de facture assez classique. On pourrait peut-être même le rapprocher un peu de Hollywood, pourquoi pas, mais qui garde quand même son aspect un peu documentaire comme ça.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale mafia.
Che hai?
È successa una cosa, Paolino.
Che cosa?
Ciccio Messana mi vuole sposare. Mi ha chiesto mia madre.
Le premier plan, on voit une vieille charrette là, qui avance dans les paysages rocailleux, là, très très durs de la Sicile. On entend une voix off. Et puis on voit bien que dans cet environnement aride, c'est là que vit la populace, quoi. Et puis, c'est en contraste total avec les habitations, en particulier des nobles, de l'aristocratie, et effectivement, qui occupent d'immenses demeures, qui là sont très, très verticales. C'est-à-dire que tout est très horizontal pour les pauvres, tout est très vertical pour les... C'est très travaillé, hein, tout ça. Hein. C'est parce que c'est la puissance, quoi. Eux, ils habitent tout en haut. Ils n'ont pas besoin d'avoir un truc aussi haut, mais c'est eux qui dominent cette ville. Il y a aussi... le jeune juge, c'est quand même Massimo Girotti, qui était super dans Les Amants Diaboliques, hein, et qui est vraiment un super acteur aussi, il faut le dire, hein, dont effectivement la femme de l'Aristo en ferait bien son 4 heures, hein, d'ailleurs, hein, ils s'entendent très bien tous les deux. En même temps, c'est un beau personnage de femme, elle n'est pas du tout comme l'Aristo, qui d'ailleurs est interprété par... Camillo Mastro Cinque qui réalisera des films après, des massistes, tout ça, je crois. Enfin bon, bref. Enfin pas je crois, je suis sûr. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, alors t'as dit la scène du mariage, et d'ailleurs dans la scène du mariage, ils jouent plus fort à un moment les musiciens. Tout le monde sait qu'ils sont en train de flinguer des mecs, mais du coup ils jouent plus fort. Il y a la traque en fait d'un jeune homme qui vit en couple avec une jeune fille qui lui est un jeune homme qui résiste et qu'on traque parce que il a vu quelque chose, il sait quelque chose qu'il devrait pas savoir, voilà. Donc et qu'on traque, qui revient de manière cyclique comme ça dans le film. Et il y a une autre scène, parce que moi j'aime bien ce film, il fixe les enjeux vraiment de ce qu'est la mafia, puis de toute l'histoire de la mafia et même de toutes les fictions autour de la mafia. On a l'État avec le juge, les aristos qui sont là. Les aristos, d'ailleurs, qui sont les seuls à pas trouver grâce, à part le personnage de femme, à pas trouver grâce auprès de Pietro Germi, qui était un fervent marxiste communiste, ancien ouvrier, tout ça et tout, et qui donne des circonstances atténuantes à tout le monde, mais pas aux aristos.
Pas aux aristos, parce que justement, il y a encore un sous-texte où, à un moment, les ouvriers veulent travailler. La mine est fermée.
On ferme la mine, parce qu'ils travaillent main dans la main avec la mafia. Voilà. Donc, et ce système est bien fait. Quand Charles Vanel explique au juge que les paysans ont besoin de lui parce qu'il assure leur sécurité, mais c'est lui aussi qui assure leur insécurité, puisque ce sont ces milices qui terrorisent les ouvriers. On le voit quand il y a le mouvement de grève, parce que c'est la manifestation pour ceux qui veulent travailler, on le voit. Et pour moi, il y a un truc qui résume bien la situation, c'est qu'à un moment, il y a un garçon qui est mourant. Et le juge, il lui demande de donner le nom de l'assassin. Et lui, il répond: si je meurs, je lui pardonne. Si je survis, je le tue. Donc, c'est... Mais j'adore, parce que c'est toute la loi de l'omerta, elle est là. C'est-à-dire que je donnerai pas le nom du mec. Mais
Je le tuerai si je meurs pas. Je le tuerai. Et puis, il y a le poids de l'éducation catholique. Voilà, c'est-à-dire, je le pardonne. Oui, c'est drôle.
Et il y a aussi ce fameux rôle aussi qui est vachement bien joué sur l'homme qui convoite une plus jeune, la fille de celle avec qui il est. Et cet acteur a une présence à la caméra, mais une présence malsaine. C'est-à-dire qu'à un moment même, il va aller jusqu'à mettre son honneur lors d'une sorte de... Bah, c'est au mariage d'ailleurs, je crois bien. Duel, hein. Oui, c'est au mariage où il veut absolument danser avec la jeune, pas avec la maman. Et il lui fait comprendre d'une manière assez... Mais il a un magnétisme, cet acteur-là. Enfin, c'est assez incroyable.
Alors, moi, j'ai envie de dire aussi que ce film se termine sur une note optimiste, voilà, qui fait que on peut voir le film suivant dont on va parler, La mafia fait la loi, un film de 68 de Damiani, comme un peu l'antithèse de ce film-là, qui est un film de 68... Franco Nero remplace un peu le juge là qui était dans le voilà c'est un peu c'est pas un remake hein, mais c'est un peu le même genre
le schéma narratif est pratiquement pareil
exactement il débarque dans une ville il y a Claudia Cardinal qui sait quelque chose
il y a eu un meurtre
Claudia Cardinal sait quelque chose pour Damiani c'est pas un manchot donc il y a un mafieux Lee Jacob et puis c'est il va se dérouler une histoire en fin de compte assez similaire où on part du même principe, on démarrait sur la rocaille dans le précédent. Là, on démarre sur l'assassinat, et les mains sortent de l'herbe, comme pour dire que la mafia, elle a pris racine dans cette terre, elle est là, quoi. Voilà. Et ça démarre comme ça, par un plan comme ça, et par contre, ça se termine par un aveu d'échec, quand même. C'est l'inverse du film précédent.
Ah bah, Nero, la mafia a gagné.
Nero est sensationnel.
Nero est sensationnel, la mise en scène est incroyable. Moi, Claudia Cardinal, bon, déjà, à la base, c'est quand même une personne qui a un charme incroyable, mais là, elle est encore plus magnifiée, je trouve, dans ce film-là. Bien que Léon, quand même, l'avait bien filmé aussi dans Il était une fois dans l'Ouest. Mais là, vraiment, c'est quelque chose... on est sur le même schéma narratif. Bizarrement, ça commence aussi par un meurtre de quelqu'un. Le montage et la mise en scène du meurtre est formidable, puisqu'on suit comme ça des pieds, une main, une carabine qui suit un peu sa proie comme ça. Et après, on va avoir vraiment... On va toucher du doigt, encore une fois, ce que la mafia est capable de faire. Quelles sont ses connexions dans le monde. Il y a Lee Jacob qui est comme ça, qui regarde du haut, encore une fois. Ça rejoint peut-être aussi ta réflexion, comme quoi un peu les gens sont en hauteur, ceux qui ont du pouvoir. Et il va regarder comme ça en face, parce qu'il est juste en face du commissariat. Et chacun va regarder, va se juger comme ça ou quoi que ce soit. Et cette scène aussi d'interrogatoire de Zichenito qui est incroyable. Alors celui qui joue, je pense que c'est Zichenito, il est d'une truculence, il joue merveilleusement bien. Enfin, c'est vraiment un film assez étonnant. Et c'est vrai, sur la fin, bon, c'est pas la fin d'Au nom de la loi. Et Au nom de la loi, sur la fin, je dis pas que j'étais déçu, mais je me dis, mince, dis donc, en fait, les gentils gagnent, quoi.
Il y a un message d'espoir.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut encore gagner. Mmh. L'espoir va quitter ensuite le cinéma italien. Hein, c'est en tout cas dans les exemples qu'on donne aujourd'hui. Idem sur Le témoin Abad de 73, sur lequel on va passer plus vite parce qu'on en a déjà parlé dans l'émission de Castellari, toujours avec Franco Nero, qui décrit le travail du commissaire Belli, qui est un flic intraitable, quoi, voilà, qui parfois utilise des méthodes très inspirées de l'inspecteur Harry, donc pas toujours très très réglo. Mais où on voit, là aussi c'est pareil, on aborde le trafic de drogue, on voit la confrontation des deux mondes entre les deux mafias, l'ancienne école, la nouvelle école. C'est très inspiré aussi de French Connection, puisqu'on reprend Fernando Rey en chef mafieux. Mais il y a cette histoire d'ancien monde, de nouveau monde, de mafieux qui s'affrontent. Bon, les spécialistes de la mafia disent que c'est pas réel, en fait, hein, qu'il n'y a pas d'ancien monde, de nouveau monde, que les truands d'aujourd'hui ressemblent énormément aux truands d'avant. Et d'ailleurs, on en a parlé aussi dans l'émission, quand c'est sorti chez Elephant Film, on voit bien avec la trilogie du milieu, et en particulier Il Boss, que bon, tout ce dont on a parlé pour Gomorra et tout, c'est déjà dans les films de Fernando Di Leo au début des années 70. Donc,
Je dirais que là, on est plutôt dans une sorte de vision un peu fantasmée de la mafia, du cinéma d'exploitation. Voilà. Ce qu'on va retrouver dans le dernier film dont on va parler très vite, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, qui est un film d'Alberto De Martino, qui est un réalisateur assez peu réputé, mais qui mériterait une meilleure réputation, puisque c'est un réalisateur très carré. C'est un très bon réalisateur que moi j'aime beaucoup. Et très sûr, hein, une sorte de yes man du cinéma italien, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire dans le sens Fleischer, dans le sens de ces mecs qui, n'importe quel scénario tu lui donnes, il va te sortir un film qui tient la route. Et là, c'est l'histoire de Don Antonio, qui est le parrain respecté de San Francisco. Film d'ailleurs qui se passe énormément aux États-Unis, qui est filmé là-bas. C'est un gros budget. Hein, il est respectueux du code d'honneur de la mafia. Et Thomas, son conseiller et filleul, lui annonce sa volonté de quitter l'organisation après avoir passé 2 années en prison. Il ne s'y oppose pas. Mais en acceptant, le Don montre sa faiblesse et déclenche une sanglante guerre des gangs à San Francisco, menée par son ancien lieutenant Garofalo, frustré de ne pas pouvoir créer son propre clan. Et également menacé, Thomas va revenir aux côtés de Don Antonio pour un combat qui s'étendra jusqu'en Sicile. On a démarré en Sicile, on finit en Sicile, avec Martin Balsam, évidemment, la tronche de l'emploi pour faire le mafieux. Et puis avec l'un des meilleurs acteurs du monde de tous les temps, Thomas Millian, qui est au centre de ce film, le film sur ses épaules.
Qui n'est pas encore trop énervé, ça va.
Non, ça va. Il est capable d'être sobre, Thomas Millian. Et ça donne, mon cher John, un film très nerveux, très enlevé, très spectaculaire aussi.
Très spectaculaire, mais alors, il me semble, si deux fois je ne me trompe pas, qu'il doit être en double programme dans le Make My Day avec Napolis Para. Oui. Et tant il est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour Napolis Para, parce que le conseiller, j'avais bien aimé. Mais Napolis Para, bien que Napolis Para soit un mélange subtil entre la mafia, le police show et la comédie, parce qu'il y a quand même des trucs de comédie, j'ai une petite préférence quand même pour celui-là.
Ah, moi j'ai. Napolis Para, bon, c'est pas vraiment un film sur la mafia, c'est un film sur la criminalité. C'est un film un peu fourre-tout, avec un côté très bis. Je rappelle quand même ce personnage de gamin qui pique une voiture, qui arrive à semer des flics, qui conduit comme Michael Schumacher, quoi. Ou comme Alain Prost, si vous préférez. Ouais. Voilà. Donc, c'est une scène totalement hallucinante. Enfin, voilà, qui n'a aucun sens. Le film est truffé comme ça de scènes. Un peu étrange.
Mais avec un braquage de train qui est assez sanglant.
Ah, mais Cayano, c'est un bon réalisateur. C'est Mario
avec
Cayano,
un braquage de banque où on n'hésite pas à donner des coups de latte à une femme enceinte. Enfin, je veux dire, ça va assez loin, hein, quand même, dans la violence.
Ah, c'est très violent. Puis ça coupe les roubignoles, hein. Ça rigole pas. Et là, j'exagère pas.
Non, c'est pour le pédophile qui est en prison, où il y a une émasculation qui est
vraiment très violente, quoi.
Oui.
Mais bon, le film de Cayano, pour moi, est chouette, mais il pâtit un peu de Leonard Mann, que je trouve est un acteur assez fade, à côté de Franco Nero, quand même. Hein, voilà. Et pourtant, il y a Henri Silva en méchant, toujours génial, en méchant Henri Silva. Et puis il y a la belle Ida Galli, que j'adore, évidemment, qui est une actrice que je trouve qui a un port altier, qui est magnifique. Et on va terminer là-dessus. Le conseiller, c'est une vision, on va dire, très américanisée. Ça se passe à San Francisco. Oui. Il y a la poursuite en voiture, avec les voitures qui rebondissent, tout ça et tout. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. On va dire que c'est plus classique. Mais bon, moi, je préfère le conseiller, mon cher John. J'aime bien Cayano, mais là, pour le coup, je préfère le Alberto De Martino. Enfin, en tout cas, on vous remercie d'avoir écouté nos élucubrations pendant une heure sur la mafia. Et on vous donne rendez-vous au prochain épisode.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret dit L'Homme Mystère and the Last But Not the Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.